Save the Queen qu'on va entendre un peu à toutes les sauces pendant 4 jours outre-Manche, 70 ans de règne aujourd'hui pour Elisabeth II et début de 4 jours de festivités au Royaume-Uni. Popularité quasi sans faille pour la reine d'Angleterre, du moins si l'on en croit un récent sondage. 75% des Britanniques qui disent l'aimer, 27% d'entre eux qui voudraient abolir la monarchie contre 60% qui souhaitent la conserver. Bonjour Anne-Sophie Bruyndonks.
Bonjour.
On le voit, hein, la reine d'Angleterre joue beaucoup dans l'image de la famille royale britannique, dans l'affection du peuple britannique envers la couronne. Comment l'expliquer ?
Tout simplement par sa longévité, par son engagement. Elle prend son rôle comme un devoir. Elle est véritablement au service de son pays. Et aussi par tout ce qu'elle a traversé et vécu en 70 ans. Ni la guerre, ni le Brexit, ni le Covid n'ont eu raison d'elle.
Ouais, sur un plan plus privé, il y a eu aussi pas mal d'événements compliqués qu'elle a surmontés, à commencer par cette fameuse Annus Horribilis.
Oui, elle a elle-même qualifié 1992 d'année horrible, une année qui aurait pu faire exploser la monarchie. 3 de ses enfants sur 4 annoncent leur divorce. Une biographie incendiaire de Diana révèle que la princesse est malheureuse, qu'elle souffre de troubles alimentaires et qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. Et puis il y a aussi l'incendie de Windsor. Écoutez à ce propos Emmanuel Joa, journaliste royauté pour Paris Match.
C'est un moment de pic d'impopularité, enfin je sais pas si c'est le pic, mais c'est un des pics d'impopularité de la couronne et de la monarchie britannique, parce que cet incendie de Windsor a rappelé à la population britannique que le contribuable allait devoir payer pour rembourser finalement un bâtiment, alors même que la famille royale ne payait pas d'impôt. À partir de là, la famille royale a payé un impôt sur le revenu. Il y a eu une réduction, je pense, de la liste civile. Il y a des efforts qui ont été faits pour plus de transparence financière, etc.
Voilà, 1992, Annus Horribilis, et puis un autre choc, évidemment, pour cette famille royale britannique, c'est la mort de la princesse Diana.
This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
Goodbye, nous sommes le 31 août 1997 et à seulement 36 ans, Lady Di meurt dans un accident de voiture à Paris. Le pays est sous le choc, mais la reine se tait. Elle attend 5 jours avant de lui rendre hommage. Il faut dire qu'entre les deux femmes, le torchon brûlait depuis longtemps. Ce silence, eh bien, il lui a été reproché.
Et dans la longue liste des événements à surmonter, plus récemment, on peut citer non pas le Brexit, mais le Mexit.
Voilà, quand Meghan et Harry ont déménagé en Californie et donné une interview à Oprah Winfrey, accusant à mi-mot la famille royale de racisme. Et puis le prince Andrew, fils de la reine, est aujourd'hui rattrapé par la justice, impliqué dans le scandale d'agression sexuelle lié au financier américain Jeffrey Epstein.
Et malgré tout cela, Anne-Sophie, la reine a tenu bon.
Oui, fidèle au poste, régnant sur le Royaume-Uni et le Commonwealth, hein, rappelons-le. Elle a continué à incarner l'institution au point qu'elle est devenue l'institution, et pour ça, les Britanniques la respectent, même s'il y a quelques différences d'appréciation selon les âges. Johnny Diamond, le correspondant royal de la BBC à Londres.
When you talk to people who are...
Quand vous parlez aux gens qui ont 60 ans et plus, il y a une réelle affection pour la reine. Sa vie et leur vie ont en quelque sorte avancé main dans la main. Enfants, mariage, décès, divorce. Pour les gens qui ont au-delà de 30 ans, vous entendrez sans doute le mot « service » qui ressort. Pour ceux qui ont moins de 30 ans, c'est juste une chose omniprésente, mais c'est une vieille chose. Et les gens de moins de 30 ans ne sont pas très intéressés par les vieilles choses.
And people under 30 are not that interested in old things.
À 96 ans, aujourd'hui, Elisabeth II est le souverain régnant depuis le plus longtemps.
Et pourtant, il faut le rappeler, elle n'était pas appelée à régner.
Eh bien non, à sa naissance, le 21 avril 1926, elle est troisième dans l'ordre de succession. Le roi de l'époque, c'est George V, son grand-père. À son décès, son fils aîné, Édouard VIII, l'oncle d'Elisabeth, devient logiquement roi. Seulement, Édouard, il aime s'amuser. Il aime les femmes, dont une certaine Wallis Simpson, américaine, deux fois divorcée, qu'il veut épouser. Tant et si bien qu'à peine 10 mois et 21 jours après être monté sur le trône, eh bien, il abdique. N'ayant pas d'enfant, il passe le flambeau à son frère, qui devient le roi George VI. Sa fille aînée, Elisabeth, donc, a alors 10 ans.
Et voilà comment elle devient reine le 6 février 1952.
Le jour même du décès de son père. Elle est alors âgée de 25 ans. Elle est mariée à Philip Mountbatten depuis le 20 novembre 1947. Elle a déjà un fils, Charles, et une fille, Anne. Elisabeth est couronnée le 2 juin 1953. Il s'agit du premier événement majeur diffusé internationalement à la télévision.
Au moment où, sous les yeux de ses deux enfants, la reine Elisabeth, dans toute sa majesté, sort du palais de Buckingham, 10 millions de citoyens britanniques et 1,5 million de visiteurs étrangers s'apprêtent à lui faire un triomphe comme on n'en vit jamais.
La voilà donc reine en 1953. Quels sont ses pouvoirs?
Eh bien, la reine Elisabeth, elle a un rôle vraiment de représentation et d'apparat, avec beaucoup de traditions, beaucoup de cérémoniales. Elle n'a pas beaucoup de poids politique, moins que le roi Philippe chez nous, qui intervient quand même au moment de former le gouvernement fédéral, hein, par exemple. Écoutez, à ce propos, Robert Morris, il est constitutionnaliste au University College London.
Her role has changed over the years. She has much.
Son rôle a changé au fil des ans. Elle a beaucoup moins de responsabilités politiques directes aujourd'hui. Elle nomme le Premier ministre, mais ne le choisit pas. Elle n'est plus celle qui dissout le Parlement et qui convoque de nouvelles élections. Ces deux fonctions ont disparu. Ses fonctions actuelles, c'est très important, sont qu'elle est le chef de l'État. Elle peut parler à la nation d'une façon qui n'est pas possible pour un politicien partisan. Dans le même temps, la monarchie est contrôlée par le Parlement et par le gouvernement. Donc dans ce pays, on peut à la fois être républicain parce qu'on est une république et monarchiste parce qu'on a une reine.
Bon, 70 ans de règne, Anne-Sophie, elle a rencontré beaucoup de monde, la reine Elisabeth.
Ben oui, elle a par exemple connu 14 présidents américains, 10 présidents français et 4 rois belges. Léopold III, Baudouin, Albert II et Philippe. Petite parenthèse, elle n'est allée aux funérailles que d'un seul chef d'État étranger en 70 ans de règne, donc c'était les funérailles du roi Baudouin. Elle totalise plus de 1000 visites officielles dans plus de 100 pays, pourtant la reine n'a pas de passeport, pas besoin. Au Royaume-Uni, elle a connu 15 premiers ministres, elle s'entretient chaque semaine avec le chef du gouvernement, ça fait quand même plus de 3500 audiences jusqu'ici. On écoute maintenant Vincent Dujardin, professeur en histoire contemporaine à l'UC Louvain.
On dit par exemple que elle aimait beaucoup Winston Churchill, qui a d'ailleurs été son mentor, qui a pu jouer son rôle de père au tout début de son règne. On dit qu'elle n'aimait pas trop Madame Thatcher parce que voilà, elle n'écoutait justement pas trop et ne voulait pas trop s'embarrasser de ses conseils. Et puis elle estimait qu'elle la copiait parfois sur le plan vestimentaire aussi. On dit que Tony Blair, voilà, sur la guerre en Irak, l'Afghanistan, sont des dossiers avec lesquels elle était moins à l'aise. Par contre, elle encourageait beaucoup ses efforts de paix en Irlande du Nord. Elle va d'ailleurs avoir une visite officielle remarquée en Irlande en 2011 avec un discours justement très engagé en faveur de la réconciliation.
Voilà, petit conflit vestimentaire entre Thatcher et Elisabeth II. En parlant d'habillement, le look de la reine d'Angleterre fait aussi sa réputation.
Bah oui, qui d'autre porte ce genre de tenue hyper colorée. Son but, en fait, c'est d'être vue de loin par toutes celles et tous ceux qui se déplacent pour l'apercevoir ne fût-ce qu'un instant. Donc, elle déteste le beige, qui est trop fade. Il faut dire qu'elle mesure 1m63 et elle a sans doute perdu quelques centimètres au fil des ans. Elle ne paie pas de hauts talons, pour autant. Des chaussures confortables, assouplies par son habilleuse, qui les porte avant la reine pour qu'elle n'ait pas mal aux pieds. Comment fait-elle donc pour se grandir? Elle ne sort jamais sans chapeau, que certains considèrent comme un substitut de la couronne. Un étage entier de Buckingham leur serait consacré.
Il y a d'ailleurs un petit jeu en Angleterre pour l'instant pour savoir de quelle couleur sera le chapeau de la reine aujourd'hui. Visiblement, l'argenté et le lilas tiennent la corde. Buckingham, où la reine avait décoré les Beatles en 1965, au sommet de leur gloire, alors que les quatre garçons dans le vent déchaînaient les passions partout dans le monde. Vous connaissez la légende qui raconte que Lennon, qui était un peu stressé, aurait fumé de la marijuana dans les toilettes.
Vous savez que c'est les premiers musiciens à avoir été décorés parce que jusque-là, il n'y avait que les combattants de la guerre qui recevaient cette déco.
Les voici, les Beatles, avec Eleanor Rigby. Merci Anne-Sophie Brindongs.
In a church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door.